Alors Jacques, je ne vais pas parler de l'épître de Jacques, mais Jacques nous parle d'un personnage dont il est mentionné, il dit, c'est quelqu'un qui était de la même nature que nous, que vous, que moi. Alors je ne sais pas si vous voyez de qui Jacques parlait. Et à la fin de Jacques, à un moment donné, il dit, il était, Gilles ne dit rien, il dit, il était de la même nature que nous. Vas-y, Gilles. Voilà, le prophète Élie. Élie le Tishbite, hein, qui pria pendant 3 ans et demi pour qu'il ne pleuve pas, et il ne pleuvait pas. Et après 3 ans et demi, il pleuvait de nouveau. Et je vous propose de voir, mais quel est le contexte de Jacques 5 dont Jacques parle et qui concerne Élie le Tishbite. Je vous propose de nous plonger dans l'épître. Dans l'Épître, on y était, de vous plonger dans l'Ancien Testament. Dans 1 roi, 17 à 19, nous avons l'histoire d'Élie le Tishbite. À ne pas confondre avec Élie le sacrificateur. Hein. C'est Élie était prophète, le Tishbite, et Élie le sacrificateur qu'on retrouve dans Samuel 1, hein, et qui avait un âge avancé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Élie le Tishbite. Je vous propose de lire quelques versets dans le chapitre 17 et après dans le chapitre 18. Mais je ne vais pas m'arrêter sur ces deux chapitres, mais je vais m'arrêter au chapitre 19. Mais pour bien comprendre la situation, le contexte du chapitre 19, c'est bien qu'on se plonge un peu dans l'histoire d'Élie. Et au chapitre 17, verset 1, c'est ce à quoi Jacques fait référence dans Jacques 5, hein, il nous a écrit « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Verset 1. Le contexte, le peuple d'Israël était de nouveau loin de Dieu. C'était nouveau, complètement éloigné de Dieu, et on voit qu'ils adoraient, au lieu d'adorer Dieu, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, celui qui les a mis à part, ils ont adoré les Baals, ils ont adoré les Astartés. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, suscite Élie le Tishbite. Tout à coup, Élie apparaît ici, c'est la première fois dont on parle d'Élie, jusqu'au chapitre 19, et après il disparaît de nouveau. Et je vous propose de voir. Et là, on voit la première fois hein, qu'il prie parce que Dieu lui demande de prier pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi. Et la pluie s'arrête de tomber. La deuxième partie, on voit les versets 2 à 7. On ne va pas les lire hein, parce que sinon on aura trop à lire. Les versets 2 à 7. On voit que Élie est envoyé vers une veuve. D'abord, on voit d'abord que là, Dieu me nourrit. On peut peut-être les lire, le verset 2 à 7. Est-ce que quelqu'un veut les lire? Élie, 1 roi 17, le verset 2 à 7.
La parole de l'Éternel nous fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays.
Voilà, là on voit que Dieu l'envoie, hein, vu qu'il y a la sécheresse, il envoie à un endroit, et c'est Dieu qui lui envoie des corbeaux pour le nourrir. Incroyable, hein? Les corbeaux lui amènent de la viande le matin, du pain, le matin, du pain, de la viande le soir. Et il boit l'eau du torrent. Mais vu qu'il y a la sécheresse, l'eau du torrent, à un moment donné, se dessèche. Et là, Dieu continue à l'envoyer de nouveau plus loin. On va lire les versets 8 à 16. Vas-y, Lucas, tu arrives devant moi. Très bien. Merci beaucoup.
Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et il lui dit « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait dite, par l'intermédiaire d'Élie.
Incroyable, non? Incroyable. Là, Élie obéit à Dieu, et Dieu fait un premier miracle. L'huile et la farine ne diminueront pas jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau la pluie qui tombe. Et cette veuve fait confiance à Élie, et le miracle se produit. Incroyable. On voit la suite, versets 17 à 24. Vas-y, Lucas. Je ne voulais pas les lire, les versets, mais bon, c'est quand même bien. Ça vous permet de vous mettre vraiment dans le contexte de ce que Élie a vécu.
Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit au sein de la femme, le monta dans la chambre, haute où il habitait, et le coucha sur son lit. Puis, il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils ?» Il s'étendit trois fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit à Élie, « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. »
Encore un récit incroyable. La veuve n'avait rien demandé. Elle nourrit le prophète et son fils meurt. Incroyable. Pourquoi Dieu permet qu'il meure? Et Dieu le ressuscite par Élie. Incroyable cette histoire. Mais peut-être Dieu l'a aussi permis pour que la veuve, qui n'était pas issue du peuple d'Israël, craigne ce Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Le verset 24 est un peu révélateur. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Chaque passage qu'on est en train de lire mériterait une prédication. Mais ma prédication va être sur chapitre 19. Chapitre 18, je vous propose encore une partie. Là, on arrive à un moment donné où Élie se retrouve devant les faux prophètes de Baal et les faux prophètes d'Astarté. Et il les met au défi. Et on va juste lire chapitre 18, si tu veux bien, Lucas, les versets 41 à 46. les versets 41 à 46 du chapitre 18.
Élie dit à Achab, monte.
Ah non, c'est pas cela. Est-ce que je me trompe là? Là, je suis déjà avant. Chapitre 18, verset 19 à 40 d'abord. Les versets 36 à 39 d'abord. Excusez. Les versets après, c'est là où la pluie tombe à nouveau. On va y arriver. 36 à 39.
Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu.
Jusqu'à là. Incroyable. Élie vit des choses incroyables. Le feu du ciel qui tombe, qui consomme pas seulement l'Holocauste, mais les pierres, l'eau, tout disparaît, il n'y a plus rien. Les derniers versets du chapitre 18 nous rappellent, on ne va pas les lire, les versets 41 à 46, là, on voit que la pluie va à nouveau tomber. Élie se met à genoux et la pluie tombe. Et là, entre le chapitre 17 et le chapitre 18, il y a 3 ans et demi, 4 ans, on voit que Dieu, que Élie vit des choses incroyables avec son Dieu. D'abord, il est nourri par des corbeaux. Après, il est nourri par une veuve. Après, il y a la multiplication de l'huile et de la famine, de la farine. Après, il ressuscite un mort, le fils de la veuve. Il voit l'intervention de Dieu, le feu du ciel qui tombe et consume l'Holocauste. Et à la fin, la pluie tombe à nouveau. Élie a vu concrètement dans sa vie Dieu intervenir de manière miraculeuse. Il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre, la main de Dieu à l'œuvre. Il a vu ce Dieu qui répondait plus d'une fois à sa prière. C'est incroyable. Et le verset 46 dans le chapitre 18, on va le lire avant de juste lire le chapitre 19. La main de l'Éternel fut sur Élie qui mit une ceinture à ses reins. La main de l'Éternel fut sur Élie. Une autre version traduit ce verset. Il était rempli de force par le Seigneur. La main de l'Éternel était à côté de lui, avec lui, sur lui. Maintenant, je vous propose de lire le chapitre 19, et Lucas, si tu veux le lire, les 8 premiers versets du chapitre 19, en ayant en arrière-pensée ce qu'on vient de voir, dans tout ce que Élie vient de vivre avec son Dieu.
Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'autre. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop, maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb.
Merci Lucas, jusqu'à là, en attendant. J'ai mis comme titre à mon message « Du désespoir à l'espoir ». Du désespoir à l'espoir. On vient de voir aller avant hein, qu'Élie avait vécu des choses incroyables. Et ça ne remonte pas, ça fait à peine 3 ans et demi qu'il a vécu tout ça avec son Dieu. Et il a vécu pas seulement une intervention, mais plusieurs interventions. Où il a vu Dieu à l'œuvre. Et là, tout à coup, chapitre 19, il fuit. Devant la première menace, devant la femme Jézabel, la femme du roi Akab, Ahaz. Après avoir vu Dieu à l'œuvre, dans toute sa puissance, la gloire, il fuit. Après avoir été entièrement encouragé, il se retrouve dans un découragement total. Élie se retrouve complètement découragé et fuit devant la menace de Jézabel. Verset 3, on vient de lire, hein, chapitre 19. Au lieu de s'attendre à Dieu, de lui parler, il fuit. Pourtant, il l'avait vu Dieu à l'œuvre avant, plus d'une fois. Et qu'est-ce qu'il fait? Une journée de marche, il s'assoit, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement découragé qu'il, verset 4, il veut mourir. Il demande la mort, carrément. Élie est au bout du rouleau, complètement abattu, complètement découragé, et je pense peut même déprimé. Ça, c'est un fait. Mais comment Élie en est arrivé là? Lui qui avait vu les miracles, les interventions de Dieu en sa faveur, en faveur du peuple d'Israël, lui qui a ressuscité un mort, maintenant il demande sa propre mort. Les chapitres 17 et 18 qu'on a lus, en partie, on voit un Élie dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans toute sa, on pourrait dire, sa confiance en Dieu, sa foi en Dieu, en ce Dieu souverain, tout-puissant, qui répond aux prières. Et maintenant, chapitre 19, nous voyons un Élie complètement découragé. Il fuit devant la menace d'une femme. Qu'est-ce qu'a dit Jacques? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'a dit Jacques? Un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature que toi. Un homme de la même nature que moi. N'avons-nous parfois pas aussi ces moments d'extase? Ces moments où on est dans la joie? Parce que Dieu a répondu à notre prière, parce qu'on a vu l'intervention de Dieu. Peut-être jamais un mort ressuscité. Si, j'en ai déjà vu, mais spirituellement, pas physiquement. Je pense spirituellement, c'est plus important que physiquement. Et pourtant, peu de temps après, on est nouveau dans des moments de doute, de questionnement. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'est plus là et qu'il ne répond plus à nos prières. Des moments où on se demande, mais Dieu, où es-tu? Des moments où on a l'impression que la main de l'Éternel s'est retirée. Pourquoi Élie en est-il arrivé là? À fuir ses difficultés. Lui qui en a affronté d'autres. Lui qui a affronté les faux prophètes. 450 faux prophètes de Baal. 400 prophètes d'Astarté. Il a affronté. Et là, il fuit devant la première menace. Quelles sont les causes de son état actuel? Et je vous en propose plusieurs. Je pense que premièrement, que les choses ne se sont pas déroulées comment Élie l'espérait. On voit au chapitre 18, verset 40, on va peut-être le lire, verset 18-40, chapitre 18-40, on l'avait lu, non, on ne l'avait pas lu. Verset, chapitre 18, verset 40, tu veux le lire, Lucas?
Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea.
Tous les prophètes de Baal furent tués. Et Élie espérait peut-être un retour à Dieu du peuple d'Israël. Parce que les faux prophètes de Baal furent tués. Et le peuple d'Israël a vu l'intervention de Dieu. Parce que les prophètes de Baal ont prié que Baal intervienne, dans le chapitre 18, rien s'est produit. Mais quand Élie a prié, le feu est descendu du ciel. Et le peuple d'Israël s'est agenouillé. Mais rien n'a changé, au fond. Rien n'a changé. Le peuple ne s'est pas détourné des faux prophètes. Le peuple a continué à adorer les faux prophètes. Chapitre 18, verset 19. Lucas 19. Le verset 19, c'est révélateur. On veut le lire, chapitre 18, 19.
Envoie maintenant... Rassemblez tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel.
Voilà, il y avait encore 400 prophètes, faux prophètes, qui étaient là. Chapitre 22 nous le dévoile. 56, 5 et 6, Lucas 22, 5 et 6, on peut lire.
Puis Josaphat s'est dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et il leur dit, « Irai-je au combat contre Ramoth en Galade, ou dois-je m'en abstenir ?» Ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. »
Le 7 aussi, Lucas.
Et Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter?
Voilà. Ça montre que le roi n'avait rien changé. Il continue à invoquer de l'aide, à appeler au secours les faux prophètes, les 400 faux prophètes d'Astarté. Et on peut penser que Élie ne voyant rien changer dans le peuple d'Israël, il était sûrement découragé, frustré. Et qui de nous ne peut pas le comprendre? Deuxième cause qu'on pourrait dire et qu'on peut entrevoir, Élie était convaincu qu'il était le seul prophète qui était encore en vie, qui n'adorait pas les Baals, les Astartés, qui n'avait pas plié le genou devant Dieu. On peut lire le verset 18, chapitre 18, verset 22, Lucas, si tu veux bien.
Élie dit au peuple, « Je suis resté, moi seul, prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. »
Je suis resté, moi seul, prophète de l'Éternel. Et il ne dit pas seulement une fois. Regardez chapitre 19, les versets 14, 10 et 14. Lucas, si tu veux bien lire, 10 et 14.
Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie.
Je suis resté, moi seul. Et le verset 14, il redit la même chose.
Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. »
Est-ce qu'il avait raison? Ben non. La suite du texte nous montre qu'Élie n'était pas le seul prophète fidèle à l'Éternel. Élie pensait être le seul survivant, le seul adorateur du vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Élie n'avait plus ou pas une juste compréhension de la situation. Élie ne voyait pas la situation comme Dieu la voyait. De ce fait, le découragement. Troisième cause, on peut penser comme son intervention devant le peuple d'Israël, quand le feu descend du ciel, consume l'Holocauste, que les 450 prophètes de Baal vont être exterminés. Comme il espérait que le peuple revenait à Dieu, et c'était aussi le but de Dieu, c'est pour ça qu'il avait envoyé son prophète. Je pense que l'identité d'Élie a pris un sacré coup. Sa raison d'être en tant que prophète a pris un sacré coup. On peut se demander si Élie n'était pas au point, arrivé au point, où c'était son travail en tant que prophète qui donnait un sens à sa vie. Ce que Élie faisait pour Dieu et le résultat qu'il en comptait, qu'il attendait, justifiait son existence. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel à 3 reprises. J'ai ardemment défendu ta cause. Une autre version. Élie était peut-être inconsciemment arrivé à justifier sa propre cause et non plus celle de l'Éternel. Justifier son existence, sa raison d'être, par sa fonction de prophète, et à travers cela, il devait y avoir un résultat visible. Je pense qu'Élie était arrivé à croire que sa vie n'avait de valeur devant Dieu que s'il réussissait pour Dieu. Et que si Dieu, répondait toujours à sa prière. Lui qui était zélé pour Dieu. Une autre version traduit, « J'ai un amour brûlant pour toi. » Une quatrième et dernière cause qu'on peut voir, Élie était en train d'arriver sur une pente glissante. Vu qu'à ses yeux, son ministère de prophète n'avait pas apporté les réformes dont le peuple dans le peuple, Élie ne servait plus à rien. Il ne va pas retourner faire la même chose. Donc, pour lui, il pouvait demander sa propre mort. Chapitre 19, verset 4. Et là, on voit que Élie était arrivé à un point de non-retour. Un point où il dicte à Dieu ce qu'il doit faire en demandant sa propre mort. À tel point, il était découragé. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. J'espère que tu n'es pas sur une pente raide. J'espère que tu n'es pas au bout, à l'exemple d'Élie. Complètement découragé, abattu. Parce que Dieu n'a pas répondu à ta prière. Ou parce que tu as l'impression que Dieu n'est pas là, ou n'est plus là. Et ce qui est merveilleux, qu'après les causes, il y a les remèdes. Parce que c'est bien de discerner les causes, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et je vous propose de voir les remèdes de Dieu suite au découragement d'Élie. Chapitre 19, on voit que Dieu est en train de complètement condamner, juger Élie. De lui dire, mais n'importe quoi Élie, tu m'as vu à l'œuvre il y a 2 ans, 3 ans, tu as vu le feu du ciel descendre, où est ta confiance en mon nom? J'ai ressuscité un mort grâce à toi et tu ne crois plus en moi. Mais c'est du n'importe quoi Élie. Est-ce qu'il est en train de lui dire ça, Dieu? J'exagère un peu. Aucune condamnation. Excusez. Aucune condamnation de la part de Dieu envers son serviteur, envers son prophète. C'est merveilleux. Nous serons peut-être plus vite à se dire, oui, mais il n'avait pas qu'à. Combien de fois le pensons-nous quand on voit une situation? On est en train d'analyser, dire, oui, mais c'est à cause de. Ici, Dieu, non, rien du tout. Mais, je pense à travers cette épreuve, dans le désert, Dieu voulait apprendre quelque chose de plus important à Élie. Que des miracles, que des interventions divines. Je pense premièrement, Élie devait apprendre à lâcher prise. Facile à dire. Apprendre à lâcher prise. À ne plus regarder à ses propres capacités, en tant que prophète, à ne plus regarder à son éloquence, à ne plus regarder aux fruits de son travail, pour se justifier devant Dieu. Il devait apprendre à regarder à l'Éternel, sans cesse. S'attendre à lui seul. Beaucoup plus facile à dire qu'à vivre, même après 30 ans de vie chrétienne, ou 40 ans, hein, Gilles. Mais ce qui est merveilleux, quand on lit la suite du texte, au moment où Élie a lâché prise, au moment où il a abandonné toute illusion sur lui-même, sur ses capacités, au moment où il réalise seul dans le désert, quand il dit au verset 4, « Je ne suis pas mieux que mes pères. » C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Là, il avait tout à fait raison. Il n'était pas meilleur que ses pères. Autant pécheur que ses pères. Mais là, il lâche prise. Et là, un miracle se produit dans la vie d'Élie. Et nous voyons à travers les versets 5 à 18, la suite, que Dieu va intervenir en faveur de son prophète. Dieu, dans sa grâce, lui montre son amour. Malgré sa fuite, il lui tend la main. Dieu s'occupe de son prophète. Il le nourrit. Et il le nourrit non en lui envoyant des corbeaux, mais ses propres anges. Dieu envoie un ange à deux reprises pour nourrir Élie. Élie, dans le désert, ne peut plus rien faire pour Dieu. Et c'est là où Dieu fait tout pour lui. Dieu montre à Élie qu'il l'aime, même si Élie ne prêche plus au peuple, n'annonce plus la vérité au peuple. Dieu lui montre qu'il l'aime, non pour ce qu'il fait pour lui, mais pour ce qu'il est pour lui. Dieu montre à Élie que son amour ne dépend pas de son ministère ou des résultats de son ministère, de son appel. Dieu montre à Élie que le seul motif de salut réside dans son amour pour lui et non dans le travail qu'il accomplit pour Dieu ou dans le fruit de son travail. Et est-ce que ce n'est pas ça la grâce de Dieu? Et c'est cette grâce de Dieu qui relève Élie et lui donne des forces pour pouvoir continuer son chemin. La grâce de Dieu permet à Élie de se relever et d'aller à nouveau à la rencontre de son Dieu et de redécouvrir une nouvelle facette de son Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu unique, son Dieu à lui. Lucas, tu veux lire les versets 8 à 15.
Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée des prophètes, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa, un grand vent violent, déchirer les montagnes et briser les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. »
Jusqu'à là. Merci, Lucas. Élie marche pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. J'ai regardé la distance. Ça fait à peu près 350 km de distance, si je ne me trompe pas. Élise, notre fille, aurait fait ça en 20 jours, tellement elle marche vite. Mais Élie marche déjà avant, quand il est allé dans le désert pendant un jour. Ça montre que la marche fait du bien, non? Et je ne sais pas ce qu'il a dû ruminer pendant les 40 jours de marche. Il a dû penser, repenser. Et là, il se trouve au mont Horeb, versets 9 et 10. Et c'est l'Éternel qui lui a donné rendez-vous au mont Horeb. L'Éternel aurait pu lui parler dans le désert. Pourquoi il a dû marcher? Et peut-être parce que la marche fait du bien. Peut-être d'autres raisons. Le texte ne le dit pas. Mais là, au mont Horeb, il y reçoit une nouvelle vision de qui est son Dieu. Un nouveau regard de qui est son Dieu. Mais tout d'abord, on peut voir, hein, il dit, « Que fais-tu là, Élie ?» Verset 9. On peut se poser, pourquoi l'Éternel pose cette question à Élie ? C'est lui qui lui avait donné rendez-vous. Élie n'est pas venu là de son propre gré. Et on voit par la suite que Élie déverse son cœur devant l'Éternel. Après 40 jours de marche, après avoir été dans le désert avant, pourquoi il n'a pas fait avant? Pourquoi attendre 40 jours pour à nouveau parler à son Dieu? 40 jours d'insomnie. Dieu permet à Élie d'épancher son cœur devant lui. Et Dieu l'écoute. Encore une fois, aucun reproche. Et là, tout à coup, il dit à Élie, sors de ta grotte, sors de ta caverne. C'est comme s'il disait, arrête de te lamenter, de regarder à toi. Sors de tes ténèbres, viens à la lumière de ma parole, de ce que je veux te dire. Et est-ce qu'Élie sort? On voit qu'il ne sort pas tout de suite. Têtu, hein, le gars. On pourrait facilement s'identifier, non? Et là, on peut lire verset 11b. Sauf et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Hein. Il lui dit 11. Et voici que l'Éternel passa. L'Éternel passa devant Élie. Et un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, le feu du ciel. Mais cette fois, l'Éternel n'était pas dans le feu. Nous dit le texte. Enfin, après le feu, un son. Un son qu'on n'entend pas. Un murmure doux et léger. Le bruit d'un léger souffle. Quand Élie entend ce bruit, il sort de la grotte. Il enveloppe son visage et sort. Il se tint devant l'Éternel, verset 13. L'Éternel était dans son doux, murmure doux et léger. Le vent violent, le tremblement de terre, le feu, ça c'est tous des choses de la puissance de Dieu que Élie avait vu avant, chapitre 17, chapitre 18. Tous des signes que Élie connaissait. Des choses qu'il avait vécues avec Dieu. Mais maintenant, Dieu voulait lui faire comprendre autre chose à Élie. Cette fois-ci, Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un son, bruit, un doux son, dans un bruissement doux et léger. Je pense que Élie, à travers tous les miracles qu'il a vécu, avait une certaine expérience de Dieu et pensait que Dieu devait toujours agir de la même manière. À n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Élie avait besoin de comprendre et de réapprendre que Dieu reste le maître de l'univers. On ne peut rien imposer à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut et comme il veut. Psaume 33. Et nous savons que Dieu agit rarement de la même manière à chaque fois pour accomplir ses desseins. Et Dieu agit souvent différemment de ce que nous pouvons penser ou croire. Ou même comprendre de lui. Et Élie aussi sait ainsi que ce Dieu puissant, que ce Dieu souverain, que ce Dieu insondable, et en même temps un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Élie avait pris l'habitude de voir des miracles, des choses grandioses. Mais là, il a dû apprendre que même si rien ne se passe d'extraordinaire, de choses spectaculaires à ses yeux, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Cela ne veut pas dire que Dieu est absent. À travers cette nouvelle rencontre personnelle avec son Dieu, dans l'intimité d'une grotte, là où Élie se retrouvait complètement découragé, au bout de lui-même, en dépression, il a été renouvelé par son Dieu. Le lieu de fuite qu'Élie avait choisi, un lieu désert et rude et sec, est devenu pour Élie un lieu de bénédiction, d'encouragement et de ressourcement. Un lieu où Élie a appris à écouter son Dieu. Un lieu où il est reparti plein de force pour un nouveau départ. Une nouvelle mission de la part de son Dieu. Et on voit les versets 15 à 18 que Dieu n'avait pas terminé avec Élie. Un lieu où Élie arrive seul et il repart avec d'autres frères et sœurs. Plus de 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Verset 18, il le dit, hein, l'Éternel lui dit. Je conclue. On peut voir à travers l'histoire d'Élie que Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait et dit. Rien ne lui échappe. Mais en même temps, nous ne pouvons rien imposer à Dieu. Nous avons toujours à nouveau et j'ai toujours un nouveau besoin d'être renouvelé dans notre manière de voir qui est ce Dieu, ce grand Dieu souverain, juste et saint, mais en même temps un Dieu miséricorde, rempli d'amour et de grâce. Mais pour cela, il faut nous arrêter jour après jour pour l'écouter, pour entendre sa voix nous parler. Un doux murmure, léger. Aussi pour que les circonstances que nous vivons dans notre vie, aussi pour que nos sentiments, nos émotions ne prennent pas le dessus sur les situations qu'on a du mal parfois à expliquer, mais qu'on accepte tout simplement que Dieu est souverain et qu'à travers cette situation, il veut nous parler différemment, autrement. Et je termine par le verset du psaume 115, verset 3. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et au verset 1 du même psaume, c'est parce qu'il fait ce qu'il veut, on doit s'incliner devant lui et lui dire, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom seul, donne gloire. À cause de ta bienveillance, à cause de ta bonté et de ta vérité. Amen.